Donc vous êtes bien sur le magazine de Canal Sud 92.2 et pas au bébé dinosaure ou à Digit, contrairement à ce que vous avez pu croire. C'est quoi cette version d'Animals?
Alors ça en fait c'est un remix qui est fait avec des vieux ordinateurs
Ah ouais, ça c'est un remix.
des appareils électroniques. Donc c'est un remix de The Animals, de The House of the Rising Sun. Donc voilà, pour ceux qui apprécieraient, il y a aussi une version de Bohemian Rhapsody de The Queen. Donc pareil, avec des vieux ordis, des vieux appareils électroniques qui sont programmés pour nous rejouer la chanson.
Merci d'avoir passé The House of the Rising Sun et pas Bohemian Rhapsody.
Bonjour à tous. On va attaquer cette émission du Bit et le Couteau comme toutes les 3 semaines. Donc sur la partie actualité, on a des nouvelles par rapport à la dernière fois. Alex, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ACTA venait d'être rejeté. Et en fait, depuis quelques semaines, on entend qu'il y a peut-être une entrée par une petite porte de derrière qui se ferait via le Canada. Donc il y avait une loi en fait qui essaie d'être passée et qui reprend des grands principes d'ACTA. Donc en ce moment, elle est à l'étude pour savoir si est-ce que c'est un ACTA déguisé ou est-ce que ça n'en est pas. Donc la victoire n'était pas totale en fait.
Il n'a pas changé de nom, non?
Ça s'appelait CETA, je crois.
CETA, ouais, je crois, ouais, au Canada.
Ça, oui, il me semblait.
Donc voilà, c'était juste pour temporiser l'explosion de joie de la dernière émission. Dans les actualités, toujours, on va vous parler un petit peu de Wikileaks, hein, parce qu'il y a du nouveau récemment.
Voilà, il y a eu pas mal de nouvelles sur Wikileaks ces dernières semaines, surtout cette semaine, où, comme on l'a dit la dernière fois, il y a Julian Assange qui s'est réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pour éviter d'être extradé en Suède suite à la perte de son procès en appel. Donc il devait être extradé en Suède, il est parti dans l'ambassade équatorienne et pour l'instant ils sont en train de voir comment il peut être, comment on dit, avoir une immunité diplomatique pour être exilé en Équateur. Et le principe, les dernières semaines, alors ce qui s'est passé, c'est la semaine dernière, il y a FDNN, donc le Fonds de défense de la neutralité du net, qui a été mis en place par FDN, French Data Network,
qui est français.
Donc on rappelle, Wikileaks a été marche sur principe de donation, donc vous pouvez donner de l'argent à Wikileaks, sauf depuis un an et demi maintenant, où Visa et Mastercard ont bloqué les transferts d'argent chez Wikileaks. Donc le problème a été combattu en Islande, où la société qui gère les transactions Visa et Mastercard doit maintenant ouvrir les transactions pour Wikileaks. Et en France, donc le FDNN n'a pas de contrat avec Visa et Mastercard, ils ont un contrat avec Carte Bleue, et donc à partir de là, ils peuvent proposer des donations à Wikileaks aussi, sans être bloqués comme Visa et Mastercard dans d'autres pays. Parmi Wikileaks, il y a aussi aujourd'hui, comment il s'appelle, Garzón, le juge Garzón, qui a permis d'extrader Pinochet.
Patino Garzón.
Qui a raté l'extradition de Pinochet, on rappelle.
Qui a raté l'extradition?
Ah bah oui, il était malade. Ah oui. Enfin, il aurait bien voulu, mais la copine Thatcher n'a pas voulu.
Voilà, il a lancé le mandat d'arrêt international contre Pinochet en 98, je crois. Ouais. Et voilà. Et aujourd'hui, il a été inclus dans la team de défense judiciaire de Wikileaks pour justement traiter tout le dossier de l'extradition et faire en sorte que ça passe pas aussi facilement que ce qui était prévu.
Sachant qu'il y a un mois ou deux, il y avait eu des appels donc, des avocats de Wikileaks envers le gouvernement australien pour... tu vas sûrement remettre ça dans le bain. Je ne sais pas si c'était exactement une demande d'assistance ou
voilà,
à
c'est
propos
une demande
de quoi ça se portait.
D'assistance par rapport à un concitoyen australien. Donc comme Julian Assange est australien, il peut demander assistance à son gouvernement et le gouvernement a rejeté en bloc toutes les demandes qui ont été faites.
En prenant donc, bien soin de mettre 2 mois de délai entre les demandes et la réponse.
En mettant du délai et en refusant catégoriquement. Alors qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'ils répondent pas en général sur ce genre de demandes. Et là, ils ont complètement rejeté tout. Maintenant qu'il est au gouvernement, enfin maintenant qu'il est dans une ambassade, donc une des pistes qui pourrait lui rester, c'est de prendre l'avion pour aller en Équateur et être un peu plus libre qu'être dans un bâtiment. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse la route de l'ambassade à l'aéroport, et c'est sur ce trajet qu'il peut être arrêté.
C'est ça.
Avec l'ambassadeur équatorien ce matin qui a dit qu'ils essaieraient de faire en sorte de pas trop faire de bruit pendant les Jeux Olympiques qui se déroulent à Londres les prochaines semaines.
Donc si jamais une émeute éclate aux Jeux Olympiques et que Julien Assange passe au milieu, c'est normal, c'est pour faire diversion.
Ouais, enfin, on rappelle, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a 50 000 hommes d'armes à Londres pour les Jeux Olympiques.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, avec l'argent du contribuable.
Donc le point important à retenir de cette info, c'est que si vous voulez aider Wikileaks, vous pouvez à nouveau, donc maintenant via vos dons, via FDNN, donc vous pouvez y aller, donc French Data Network, ça fait des années que le réseau a confiance en eux, donc on réitérera cette confiance, je pense, pour les temps à suivre.
Je rappelle, si vous voulez des informations sur ce qu'on dit, vous pouvez aller sur canadesud.etalab.org, où vous trouverez un pad où vous pourrez discuter avec les autres auditeurs et trouver des liens vers soit le générique qu'on vient de passer, les musiques qui vont passer après, et les informations qu'on vient de donner à l'antenne.
Et également nous poser plein de questions.
Également poser
bien,
des questions.
Voilà. Donc, sur les actualités un peu plus sécurité... ce week-end se passe la DEF CON. Donc la DEF CON, c'est une convention de, on va dire, de tout ce qui est hack, sécu, etc., qui fait partie des conventions les plus célèbres au monde. C'est la 20e édition cette année. Et donc cette année, ce qui est assez amusant, c'est que depuis pas mal d'années, on sait que beaucoup d'agences gouvernementales sont dans ces conventions, donc ne serait-ce que pour se tenir au jus, pour voir un petit peu qui émerge, d'où ça émerge, etc. Et donc cette année, en fait, l'invité surprise, c'est donc le général qui dirige la NSA, qui va donner un talk sur intérêts partagés et responsabilités partagées, donc avec la communauté. Et il y a donc quelques, je sais pas si on peut dire agents, employés ou fonctionnaires de la NSA, donc qui vont donner aussi quelques conférences donc pendant cette DEF CON. À noter aussi que
Il y a Apple aussi pour la première fois qui vient assister à la DEF CON.
On va éviter tout type de commentaires désagréables par rapport à ça. À noter aussi que comme tous les ans, donc il y a des concours de CTF. Hein. CTF, c'est Capture the Flag, donc ce sont des épreuves de sécurité informatique en équipe, hein, où vous avez des points à obtenir. Alors on va passer un petit peu le détail sur comment obtenir ces points. Vous obtiendrez toutes les informations à l'aide de Google et de Wikipédia. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces concours de CTF, depuis de nombreuses années, il y a une petite équipe de Français qui fait ça régulièrement, qui s'appelle l'équipe des routards, et qui finissent souvent en seconde place. Donc on espère que pour la 20e édition, ils vont réussir à prendre la première place. Donc,
sachant que sur ce genre de festival, c'est des équipes en général militaires qui viennent participer à des...
Voilà, donc le niveau est très très haut, et on est de tout cœur avec les routards pour le CTF de cette année. Quoi. Allez-y, une bonne première place là pour la 20e DEF CON, ce serait super. Quoi.
Et le premier prix, c'est quoi? Vous êtes embauché par la NSA?
Ah ouais, ça pourrait être marrant, ça ferait perdre tout intérêt au jeu du coup. Pareil, en question de sécurité, récemment donc il y a eu un petit truc qui est sorti, c'est qu'une agence, enfin une banque somalienne qui travaille beaucoup avec des personnes de chez Al-Qaïda, donc pour de l'échange d'argent, etc., ou ne serait-ce que pour du hosting, donc s'est fait attaquer. Par un collectif d'activistes, et ils ont libéré tous les comptes, donc avec nom, prénom, mot de passe, numéro de téléphone, les transferts d'argent dans tous les sens, les montants, etc., etc. Donc c'était assez amusant, et sachant que les mots de passe étaient plus que simplistes, notamment le mot de passe administrateur de cette bande qui était Dahab avec un H 1234. Donc on ne le dira jamais assez, hein, sécurisez correctement et faites attention à ce que vous faites, enfin, sauf dans ce cas-là où, bon, effectivement. Au niveau sécurité, toujours Alex, tu me parlais d'une bataille des deux blocs avec Kaspersky au milieu.
Voilà, il y a un super article sur Wired, c'est Wired.com, c'est un magazine américain qui parle d'informatique en général, qui fait un profil de Kaspersky. Donc Kaspersky, c'est un ancien officier russe qui s'est reconverti dans le... domaine des virus informatiques, et aujourd'hui le monde du business en Russie, ça marche quand on est assez près du gouvernement, donc ils ont une énorme boîte d'informatique, enfin d'antivirus, et ils aident le gouvernement russe à traquer certains virus avec des teams spécialisés sur certaines actions. Ce qui s'est passé cette année, il y a l'Iran qui s'est fait attaquer sur ses centrales nucléaires. Ils se sont fait attaquer par des virus qui ont l'air assez balèzes, donc Stuxnet et Flame plus récemment. Certaines personnes de l'équipe de Kaspersky ont aidé à démanteler ce réseau et découvrir qui travaillait derrière ou dans quel intérêt c'était travaillé derrière. Donc, maintenant, ils essayent de travailler sur la sécurisation des réseaux industriels et du matériel informatique industriel. Donc, le profil est très intéressant. Ça montre comment un petit officier qui était passionné de démontage du virus il y a une vingtaine d'années est devenu un espèce de gourou russe de l'informatique et des virus informatiques.
Sachant que ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que, comme on l'a vu, ces gros malwares qui ont touché l'Iran, et comme le New York Times et le Washington Post l'ont démontré, c'est donc des programmes officiels de l'administration des États-Unis, donc qui se sont fait mettre à jour et démonter par une équipe de sécurité russe en chaîne avec le gouvernement russe. Donc on a un peu l'impression de retourner sur une bataille des deux blocs par pays interposé là, ces temps-ci.
La guerre froide, le retour.
C'est ça, la cyberguerre froide.
Avec les Chinois qui disent pas grand-chose, mais qui en font aussi beaucoup.
C'est sûr.
Et un autre article assez sympa, c'est comment la NSA développe un algorithme de surveillance pour analyser ce qui se passe dans vos vies. Donc en gros maintenant la NSA ils ont tout un réseau de surveillance aux États-Unis. Normalement ils n'ont pas le droit de s'en servir pour les concitoyens américains, mais nous comme on utilise la plupart tous Gmail ou Facebook ou tous les services en ligne super sympas, on fait partie exactement du genre de personnes qui peuvent surveiller. Et ils ont développé des algorithmes a priori qui permettent d'analyser un peu tout ce qui pourrait se passer dans votre vie et faire des profils types. Donc l'article est pas mal, je vous conseille d'aller le voir. Il y a un peu d'infographie pour vous montrer comment marche leur réseau et comment pourrait marcher leur algorithme si on en savait plus.
Et du coup maintenant pour terminer les actualités sur des choses un petit peu moins sérieuses, on va parler de gros seins donc. Une actualité qui a touché Microsoft, hein, c'est-à-dire que donc Microsoft a développé du code qui permet de connecter le noyau Linux sur des produits de virtualisation, donc la Google machine virtuelle et virtualisation. Et un développeur a modifié une constante pour l'écrire B16B00B5. Et en fait, quand on le lit un peu comme on le lisait il y a 10 ans, les calculatrices, il y a marqué Big Boot, en fait. Donc ça a fait un peu un tollé, donc certains féministes sont mis à gueuler, et du coup plein de barbus pro-Linux en ont profité pour prendre le train en marche et gueuler contre ça, alors que c'est quand même typiquement une blague de nerd. Mais bon, à voir l'avis d'Alex sur ça.
Donc, aucun. sans opinion.
Très bien. Est-ce qu'on a terminé sur la partie actualité ?
Alors, il reste deux articles de Corben.info dont on n'a pas parlé encore. Quelqu'un à Paris qui avait des lunettes un peu à la Google. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi Google qui va sortir des lunettes équipées d'une caméra de vidéo et probablement un display sur la lentille de la lunette. Donc,
une dizaine d'années qu'il les a d'ailleurs, ces lunettes.
Et donc voilà, il y a un cyber-homme qui a ses lunettes depuis une dizaine d'années et il s'est retrouvé au McDonald's à Paris et Champs-Élysées. Et a priori, il y a des gens qui n'ont pas trop apprécié de se faire filmer sur place et qui l'ont demandé de retirer ses lunettes. Et lui, comme il ne comprenait pas, il n'a pas tout de suite compris que c'était pas le moment de garder ses lunettes et après il s'est fait casser ses lunettes.
Oui, sachant qu'il peut difficilement les retirer vu que par un dispositif ils sont fixés à sa boîte crânienne. Donc les employés de McDonald's ont essayé de le forcer à retirer ses lunettes, mais bon, ils ne pouvaient pas puisqu'il n'avait pas les outils sur place. Il a brandi un document donc de son médecin. En fait, c'est pour des problèmes d'yeux du coup qu'il a fait ce dispositif lui-même il y a une dizaine d'années. Et donc les employés de McDonald's n'ont rien voulu comprendre, ont déchiré les documents justificatifs de ces médecins, et donc ont essayé de le mettre dehors, et d'ailleurs ils l'ont mis dehors, où un peu de temps après, sa femme et ses enfants l'ont rejoint dans la rue. Donc McDonald's, c'est quoi déjà le slogan de McDonald's ?
Venez comme vous êtes.
Voilà. Bah, ne venez pas alors, quand vous êtes un peu différent, c'est pas pour ça. Dernière activité, actualité, je bafouille aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Hein. Toujours rien ?
Non.
Bon, et bien on va passer à la partie dossier avec un petit interlude qui se nomme «
qui se nomme « Vidéo a tué la star radio ». C'est une reprise « Pardon my French » de « Video Kill » de Radio Star par Georges Profonde et Suzy The Beat.
Excellent.
Bien sûr, Radio Nostalgie. Après les années 60, les années 80. Incroyable.
Oui. Ah oui. Alors, peut-être que certains auront reconnu donc Video Kill de Radio Star, le remix de The Buggles. Et en fait, ça vient de Pardon My French. C'est un site collaboratif dont le principe est de reprendre des chansons anglaises, les traduire via un moteur de traduction basique sans reprendre la traduction et chanter telles quelles, donc ces paroles absurdes.
D'accord.
Voilà.
On peut beaucoup jouer avec des traducteurs automatiques.
Ça se fait beaucoup, ouais. Oui. Donc on va attaquer cette partie dossier avec Coralie, notre invitée, qui va nous présenter un projet assez amusant de vie sous une nouvelle forme, une tentative expérimentale.
Oui. Alors, la dernière fois, on avait parlé, pour ceux qui étaient là, d'un designer qui avait voulu faire de A à Z son grille-pain. Voilà, une démarche un peu extrême. Et là, dans le même type de démarche, on a un jeune réalisateur qui voudrait entreprendre de vivre pendant un an totalement en open source. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera soit il va devoir, s'il ne trouve pas en open source les objets ou la nourriture, par exemple, il va falloir qu'il le produise lui-même. Voilà, c'est ça le principe, l'idée de base.
Alors, par exemple, moi j'ai une question pour tout ce qui est... c'est un jeune réalisateur d'où, exactement, en fait?
Alors, c'est un Néo-Zélandais qui vit à Berlin.
pour braconner à Berlin, bonne chance.
C'est ça. C'était ma question. Est-ce que c'est en métropole ou pas? Ouais. Parce que si on commence à prendre les transports, ça risque d'être un peu compliqué d'essayer voilà. de refaire un tram dans son jardin.
Voler dans un supermarché, c'est open source ou pas?
Alors, moi, je trouve l'idée assez intéressante, vu que ça oblige vraiment, du coup, vu qu'il ne va pas trouver tout ce qu'il veut en open source, il va être obligé de faire beaucoup de choses par lui-même. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la personne en question a ouvert un compte Facebook pour qu'on puisse suivre ses aventures. Donc bon, pour un début, c'est un peu... Il a loupé une marche, clairement. Et oui, il a pas l'air... Alors il avoue lui-même ne pas connaître le milieu, donc ça, à la limite, ça peut être louable. Mais bon, il aurait pu un peu mieux se renseigner, on va dire.
Effectivement. ce qui est amusant, en fait, ce serait de voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut utiliser, dont on peut le rendre open source, ou on peut avoir pas la recette, mais au moins le procédé de fabrication ou quoi que ce soit, et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Par
c'est
exemple,
ça.
Dans les catégories d'aujourd'hui, on peut avoir nos vêtements, par exemple. Ça, c'est les consommables légers, comme ça, on peut.
Ouais.
L'alimentaire aussi.
Par exemple, si on voulait avoir des vêtements open source, il faudrait exiger d'avoir le patron, mais également la composition du textile. Voilà, mais c'est surtout l'idée, c'est de pouvoir le refaire soi-même aussi. Donc, ouais, le patron.
Voilà.
Oh, le patron, ça peut se recopier.
Ah oui, mais...
Ça marche pas. C'est plus open source.
C'est pas du reverse engineering. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est au niveau de la nourriture.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, il expliquait que s'il doit aller, par exemple, au restaurant, il ira que dans un restaurant où on pourra lui fournir la recette qui a été utilisée pour faire son menu. Donc bon, je pense qu'il va beaucoup manger à la maison.
C'est ça. Marc, pour un bon kebab, salade tomate, oignon, il ne devrait pas y avoir de problème pour la recette. Mais après, ça risque d'être
trouver l'agneau,
compliqué.
Quoi.
Ouais. C'est ça. Donc, quel est le nom de ce personnage, hein?
J'ai égaré le nom, mais on peut retrouver, je pense, cet article sur... C'est une information qui a été relayée par OVNI, en fait.
D'accord, donc voilà. OVNI.fr, qui est un média de presse en ligne.
Le jeune homme, moi, je trouve la démarche intéressante, mais en fait, il n'a pas encore commencé. Il est en train de faire donc du crowdfunding, une récolte de fonds, pour réaliser son documentaire. Et c'est là aussi où je trouve qu'il se trompe un petit peu. Il demande quand même pas mal d'argent pour faire son documentaire.
C'est-à-dire
à 10 000 euros.
D'accord, donc 10 000 euros.
Qui le justifie en disant qu'il doit être suivi par des caméramans en permanence. Mais bon.
D'accord.
Voilà.
Et donc juste une petite explication pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le crowdfunding. Le crow, donc, de foule, et funding, donc... l'apport de fonds, c'est de passer par une plateforme collaborative où chacun expose son projet et donc va dire bon, ben, j'ai besoin de faire un festival de danse à Montauban et donc pour ça, mon programme ce serait ça, je souhaite organiser les choses de telle manière et j'ai besoin d'une telle somme, donc qui veut participer? Vous mettez la somme que vous voulez et à partir de certains paliers, donc vous avez droit à des produits dérivés de ce que la personne veut organiser. Donc par exemple pour un festival de danse, ce sera des entrées ou ce sera un DVD.
Voilà, une danse avec la danseuse ou...
Voilà, très bien, donc il n'y a pas de...
Récompense variée.
C'est ça, donc c'est quelque chose qui est très qui se fait beaucoup en fait depuis 5-6 ans, et le site phare de ça c'est...
Kickstarter aux États-Unis.
Voilà, et qui par contre ne permet de faire que du crowdfunding sur...
Pour l'instant c'est qu'aux États-Unis, je crois qu'ils ont ouvert récemment en Angleterre.
Ouais, alors je crois que c'est sur un Kickstarter, oui, je crois qu'il est sur Kickstarter son projet. Mmh. Après, des sites de crowdfunding, on a aussi Kiss Kiss Bang Bang, qui est français, je crois.
Avec un K.
Et en France, le plus utilisé actuellement, c'est quand même Ulule. Voilà.
C'est le site que le Tétalab utilise pour demander plein de brousouf à des gens et pour organiser des événements à destination du grand public.
Donc, car l'argent n'est toujours pas un open source.
Non, jamais. Donc, pour en revenir à ça, en fait, c'est vrai que c'est une démarche intéressante. On voit de plus en plus de gens qui n'ont rien à voir avec l'open source, qui font des expériences, qui font des réalisations, qui font des travaux d'études vis-à-vis de ça. Donc, Coralie, tu avais posé une question il y a quelques temps, donc c'était pas l'antenne. Hein. C'était une discussion sur la boboisation, hein, un terme un peu... vulgaire de l'open source, hein, qui fait que on se retrouve avec beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir dans l'open source en elle-même et qui font des choses excellentes, vraiment. Des travaux comme de jeunes designers qui rentrent les deux pieds dans le plat et qui font du très bon travail. Et aussi, donc, comme on l'avait vu à Paris avec le Carrefour des Possibles, avec une certaine dérive.
Oui, c'est ce qu'avait relayé OVNI. Après, alors, c'est vrai que là, par exemple, pour ce projet précis, on se dit, qu'est-ce qui vient ? Il surfe un petit peu sur une tendance, il prend le truc. Enfin, on pourrait analyser ça comme ça. Après, moi, je trouve ça intéressant, justement, qu'il y ait des personnes qui n'y connaissent rien. Pour moi, s'ils jouent le jeu à fond, ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant. S'il s'en tient à des poncifs et qu'il prend des raccourcis par moment... là, c'est pas drôle, quoi. Mais je trouve ça plus intéressant, à la limite, que quelqu'un qui n'y connaît rien se frotte au défi, plutôt qu'un super bidouilleur qui connaît tout sur tout, MacGyver, et qui va faire ça les doigts dans le nez. Et là, lui, c'est sûr, s'il veut vraiment le faire, il va galérer.
Et ce qui est intéressant, effectivement, ce sera le retour d'expérience. Et ce qui est très intéressant, encore plus, hein, le mot intéressant revient beaucoup aujourd'hui, ce sera de voir, en fait, sur quoi il a échoué, et d'essayer de trouver en fait des solutions pour outrepasser ça. Donc par exemple,
oui,
s'il a échoué,
ouvrir les possibles,
voilà, ouvrir, très bien, très bien. Donc je vous invite, donc, si vous avez des questions, à les poser à Coralie, elle a de super phrases aujourd'hui, profitez-en. Ça va être terrible, hein. Et toi, alors, ta démarche open source aujourd'hui, parce que donc Coralie n'est pas une bidouilleuse techno au sens du terme, c'est quelqu'un qui s'est mis à l'open source.
Pardon.
Donc je veux dire que tu n'es pas de formation technique, donc tu
voilà. D'accord.
Et donc tu t'es mis à l'open source via un côté création design. C'est bien ça. Et à travers notamment la première approche, ça avait été une partie sur l'obsolescence programmée.
Voilà, c'est ça. Mais alors, en fait, mon thème de départ, si on remonte vraiment au tout début, c'était le chaos. Le chaos et la subversion. Voilà, dans le design, c'était un peu casser tout ce qu'il y a pour remettre tout à plat, se dire que finalement, vu que le design suit un petit peu l'économie qui est en train de flancher, l'idée, c'était de se dire... on remet tout à plat, on cherche une nouvelle manière de faire, et qu'est-ce qui va naître de ça si on cherche à tout remettre à zéro ? Donc forcément, on ne peut pas toujours vraiment repartir de zéro, mais disons que c'est ça qui, petit à petit, avec les obstacles et tout, m'a mené à l'open source. Et alors, donc l'open source, c'est la base, ça a des dérivés, par exemple, en électronique, l'électronique open source et l'open hardware. Et pour le design, il y a également l'open design. Donc le principe de l'open design, c'est que vous achetez des objets dont les plans vont être livrés avec l'objet. C'est-à-dire que s'il y a besoin, par exemple, si la poignée du meuble de la cuisine casse, poignée en plastique par exemple, ça casse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir le fichier 3D par exemple, on va aller au Fab Lab du coin faire imprimer sa poignée de porte. Et du coup, de vis, et on la remplace. Voilà, c'est ça le principe, c'est qu'on est capable de réparer les objets. Voilà.
Et d'ailleurs, en parlant donc d'open design et de réparation, est-ce que la personne qui se lance donc de vivre là en open source, est-ce qu'elle est en collaboration avec un Fab Lab ? Est-ce qu'elle s'est rapprochée de structures ouvertes comme ça ? Ou est-ce qu'elle est toute seule ? Comment ça se passe ?
Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, il est tout seul. Mais je pense qu'il va très vite se rapprocher des Fab Lab et Hackerspace, parce que sinon, je ne sais pas trop comment il va faire.
Bah, il meurt de faim.
Oui, je pense.
Ce sera comme tel Diogène dans un tonneau.
Pour manger, ça va, mais s'il se tient à consommer entièrement en open source, pour ce qui est du produit en tout cas, s'il veut produire, il va falloir qu'il se dirige vers des lieux où il va avoir accès à une imprimante 3D, une découpe laser, une fraiseuse numérique, tout ce qu'il faut pour fabriquer. Et après, je pense qu'il va sur des sites comme Thingiverse où il y a des objets justement en open source. Il va se produire l'existant parce qu'il est réalisateur, il n'est pas bidouilleur. Et voilà. Et il va devenir bidouilleur sûrement. Enfin, j'espère. On verra.
D'accord. Donc, pour rappeler Thingiverse, Alex, tu connais bien Thingiverse.
Thingiverse, c'est un site pour télécharger des objets sur Internet et pour pouvoir partager les objets que vous construisez en open source. Que les gens puissent les modifier et les remettre à leur sauce sur le site.
D'accord, donc c'est un site qui est beaucoup alimenté par des gens qui possèdent des imprimantes 3D.
Voilà, c'est, donc ça a été construit par, je crois que c'est... Non, c'est comment ça s'appelle ? MakerBot Industry, qui gère le site. Donc MakerBot Industry, c'est une compagnie qui vend des imprimantes 3D aux États-Unis. Et donc ils profitent de ce site pour faire participer les gens qui achètent leurs imprimantes 3D. Et aussi n'importe qui a envie de construire des choses peut le mettre sur ce site et le partager avec plein de monde. Bon, c'est un peu comme un Facebook des objets en 3D. Enfin, bon, avec un peu plus le mode construction.
Peut-être un peu
moins. C'est rencontre entre eux, donc.
Voilà, ou un peu comme GitHub, mais avec des objets physiques.
D'accord, il n'y a pas Farmville sur Thingiverse. Hein.
Ouais, voilà, il n'y a pas trop de jeux. Enfin, il y a beaucoup de jeux, mais il faut les construire soi-même avec une imprimante 3D.
D'accord. Très bien, très bien. Et pour parler, donc pour continuer en fait, parce que c'est assez intéressant le fait de décider de passer un an, de passer un an en open source. Il y a quelque chose où je me pose un peu la question, c'est est-ce que au niveau donc de cette partie des gens qui rejoignent l'open source, qui sont pas des techniciens, qui sont plus donc des créatifs, des designers, des réalisateurs comme tu parlais de cette personne, est-ce que le courant en fait qui arrive à ces gens-là, est-ce que c'est un courant d'intérêt ou est-ce que quelque part il y a des formations qui commencent en fait à évoquer ça, comment ça se passe en fait?
Qu'est-ce que tu veux dire par des formations?
Est-ce que ça commence à être intégré au cursus d'études, est-ce que...
Je pense que ça va le devenir.
D'accord, ça l'est pas aujourd'hui?
Non, pas vraiment. Ou si ça commence... Ça s'est apparu, par exemple, l'année dernière, pour ce qui est du design. L'ANSI, qui est la plus grosse école de design industriel en France, a ouvert son propre Fab Lab.
D'accord.
Au sein de l'école. Donc oui, ça va commencer, on va dire.
Ok, super. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de projets.
Voilà, c'est ça. Ça va, je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Et vu que c'est le but, tant mieux.
D'accord, très bien. Très bien, c'est parfait. Alex, des questions?
Pas de questions, non. Il n'y a personne qui a posé des questions sur le pad.
Okay. Ouais. On n'est même pas la petite blague de Fabrice, rien?
Rien.
D'accord.
Ah, et c'est fin juillet.
C'est ça.
C'était plus facile avec le Minitel.
D'ailleurs, il va être 14h.
Donc d'ailleurs, on va justement, on va terminer donc cette partie dossier. On va rapidement faire un tour sur l'agenda.
Ok, l'agenda. Donc comme tous les mercredis soir, chaque semaine, on se retrouve au Theta Lab à 21h ce soir. Donc, passez nous voir si vous avez des questions, si on a envie de voir un peu les projets que tous les personnes là-bas ont.
Amener des bières.
Amener des bières, voilà, c'est ouvert. Et,
beer to beer.
Vous êtes bienvenus. Ouais.
Très bien.
C'est à Myris.
C'est oui, à Mixart Myris, voilà. À 12 rue Ferdinand Lassalle, donc c'est près des ponts jumeaux au bout du canal du Midi. L'autre partie de l'agenda, c'est les festivals qui ont lieu cet été. Donc il y a le FHSC.
French Hacker Summer Camp.
French Hacker Summer Camp. Donc ça se passe à Villefranche-du-Lauragais, pas vraiment très loin de Toulouse, à une trentaine de kilomètres. Ça aura lieu ce week-end, à partir de vendredi, pendant 3 jours. Ça se passe à l'Illégal. Donc l'Illégal, c'est un concept de cyber Moyen-Âge, ainsi qu'une galerie d'art post-industriel, construite par un artiste qui s'appelle Lilian, je sais plus comment.
Chardon.
Lilian Chardon, merci. Et donc il y aura l'Asso Blabla qui va gérer le catering, donc de la boisson et du manger. Vous pouvez venir avec votre boisson ou vous manger, vous pouvez venir avec votre tente. et vos projets, ou venir voir quels projets font partie de ce festival.
Donc il y aura des gens, des groupes de hackers un petit peu partout de France qui vont venir pour faire des ateliers, des conférences, etc. Donc durant 3 jours.
Durant 3 jours. Hein. Donc au départ c'était prévu à côté de Lyon, et là ça se passe à côté de Toulouse. Donc,
2 heures de vélo de Toulouse, ouais.
Voilà. C'est ça, on peut y aller le long du canal du Midi.
Et l'autre festival sera à Padoue, donc c'est du 12 au 22 août à Padoue, dans les Alpes-Maritimes, à 1600 mètres d'altitude. Donc un festival hack et do it yourself autogéré. Vous pouvez retrouver sur le pad canalsud.etalab.org toutes les informations pour aller à ce genre de festival.
Voilà, donc terminé pour l'agenda, c'est aussi terminé pour l'émission Le Bit et le Couteau, c'était l'émission DE, je sais plus, on tient plus le compte, donc si quelqu'un l'a, c'est bien de le rappeler sur le pad. On vous remercie, donc, et puis à une prochaine émission, donc, dans 3 semaines.
Dans 3 semaines.